Bonsoir à tous, bienvenue dans cette foire aux questions numéro 14 déjà. Ce soir, on va parler encore des municipales. Je pense que d'ailleurs, on n'a pas fini d'en parler. Et puis surtout, on va envisager les prochains rendez-vous électoraux qui se présentent. Alors, vous pensez tous à la présidentielle perdue. Le prochain rendez-vous, ce sont les sénatoriales. Et il va y avoir un certain nombre de bouleversements à partir du nombre de conseillers municipaux, conseillers communaux très exactement, qui ont été élus et qui vont bouleverser la configuration du Sénat. Voilà. Et après le Sénat, bien sûr, il y aura la présidentielle. Donc vous avez remarqué certainement que depuis ce matin, un certain nombre d'acteurs politiques eh bien, occupent le devant de la scène en expliquant qu'il faut faire ceci, cela. Donc on va passer tout ça en revue.
Bonsoir Serge, donc on rappelle le concept, donc foire aux questions en direct. L'idée c'est qu'un maximum de personnes posent des questions directement sur le chat et on va y répondre du mieux qu'on peut pendant 1 heure et demie, quoi. Donc bonjour, bonsoir à toutes et à tous, hein. Merci d'être toujours aussi nombreux sur CFAQ. Bon Serge, par contre, on a quand même vendu le titre et maintenant c'est la présidentielle. Donc
Oui.
on est. Donc, est-ce que d'abord, est-ce que tu voudrais faire un petit édito sur les municipales qui viennent de passer, ton ressenti à chaud à froid sur les quelques jours qui se sont passés depuis le second tour,
Bon, ben
pour débuter?
je vais essayer de faire court parce que je pense que c'est l'objectif de ces formats, c'est surtout d'être interactif et d'enchaîner rapidement réponses et questions. Donc, faire simple, ça veut dire que nous avons eu la démonstration qu'en politique, 1 plus 1, ça ne fait pas forcément 2. Des fois, ça fait 2,2, 2,3, des fois, ça fait 1,8. Tout dépend de la configuration et du contexte. Et en l'occurrence, je crois que la grande erreur de part et d'autre, ça a été de croire qu'il était possible en une semaine d'effacer des mois et des mois d'accusations, de dénonciations, de procès, d'excommunications. Je le dis de part et d'autre, hein. Il ne s'agit pas de dire c'est la faute à la France insoumise ou c'est la faute au Parti socialiste. Non, le résultat de cette bagarre, de cette dispute permanente devant l'opinion, ben, ça rend les stratégies d'alliance faibles, voire inopérantes, le moment venu. C'est-à-dire qu'en une semaine, on n'efface pas des mois de baston. On ne peut pas dire la France insoumise, antisémite, outrancier, complotiste, machin. On ne peut pas dire les sociaux traîtres, ils ont quitté les rangs de l'opposition, ils font partie de la Macronie, etc. Et puis ensuite dire aux électeurs, mais votez pour nous, on s'aime quand même. Non, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème de géographie politique. Est-ce que les socialistes font toujours partie du continent de la gauche pour la France insoumise? Et la question inverse, la question réciproque est posée également. Est-ce que pour les socialistes, LFI fait encore partie de ce qu'ils appellent la gauche? Voilà. C'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que si on considère que LFI appartient à une autre galaxie, une autre planète, faut surtout pas faire d'alliance avec. Et de la même façon, si on pense qu'on est la seule gauche véritable, authentique, et que le reste, ce sont des ectoplasmes, des imposteurs, des traîtres, il faut surtout pas faire d'alliance avec. Donc, il faut repenser ce logiciel qui, pendant des années, a fonctionné en France. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs forces politiques à gauche, chacune avec son identité, mais tout ça, ça forgeait, ça formait un bloc qui s'appelait la gauche. Apparemment, aujourd'hui, c'est bien différent pour les uns et pour les autres, et ça pose effectivement problème lorsqu'on arrive devant les électeurs. Difficile de leur dire que le gars d'à côté, il fait partie de la gauche, alors qu'on a passé des semaines à dire exactement le contraire. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me,
Alors,
d'ailleurs, me dit pourquoi vous n'avez pas posé de. Je rebondis, hein.
vas-y, vas-y.
Pourquoi vous n'avez pas posé de questions hier lors de la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon devant les influenceurs, hein, je préfère dire les influenceurs que les nouveaux médias. Ben, j'aurais bien aimé poser cette question, c'était de demander à Jean-Luc Mélenchon s'il pensait que les socialistes, avec tous leurs défauts, enfin tous les défauts qu'il leur prête, faisaient toujours partie pour lui de la gauche. Ou appartenait au bloc macroniste. Je rappelle que Mathilde Panot nous avait expliqué, après que les socialistes aient refusé de voter la censure, que désormais, ils appartenaient, ils n'étaient plus dans l'opposition et ils faisaient partie du bloc macroniste. Bon, donc je voulais savoir si cette analyse était toujours en vigueur ou pas. Voilà. Malheureusement, pour des raisons que j'ignore, j'ai pas eu la possibilité de poser ma question, quand bien même Jean-Luc Mélenchon a incité la personne qui distribuait le micro à me passer le micro. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Et puis de toute manière, j'aurais. Ah, il y a quelqu'un qui me dit la caméra bouge. Ouais, c'est vrai, parce que je bouge et le guéridon bouge en même temps. Donc je vais éviter de m'appuyer sur le guéridon de manière sauvage. Je vais rester un peu en retrait. Je ne touche plus à rien, je vous le promets.
Serge, sur le chat, là, Mato qui nous demande, au vu du flop des écologistes, est-ce que c'est la mort de l'écologie municipale?
Je dirais que les écologistes sont un peu victimes de leur succès. C'est-à-dire qu'ils ont tellement infusé dans la société qu'aujourd'hui, l'ensemble des formations a une réflexion sur l'écologie. Et parallèlement, eux sont allés dans une posture, un positionnement plus politique. On peut constater une certaine maturation politique chez les écologistes qui avant s'occupaient uniquement de questions strictement environnementales. Aujourd'hui, il y a des problématiques de pouvoir d'achat, de partage du travail, de société dans laquelle nous voudrions vivre les uns et les autres. Voilà, il y a toute cette réflexion. Donc, eux se sont rapprochés de la politique traditionnelle, tandis que la politique traditionnelle se rapprochait de l'écologie. Et donc, leur spécificité, leur identité est un petit peu, c'est un petit peu envolée. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème de posture politique de Marine Tondelier qui, à force de faire le trait d'union entre la France insoumise et le Parti socialiste, on ne sait plus très bien où elle est. Et plus exactement, où sont les écologistes? Est-ce qu'ils sont à mi-chemin de ces deux forces? Est-ce qu'ils représentent une force alternative? Ça, on ne sait plus où ils sont. On ne sait plus où ils sont. Leur programme était déjà assez illisible. Leur fonctionnement est très complexe, quand bien même ils ont fait un effort pour le simplifier, parce qu'eux-mêmes ne s'y retrouvaient plus. Mais je dirais que leur identité est brouillée. Elle est brouillée à la fois par leur spécificité, puis elle est brouillée aussi par Marine Tondelier, qui, c'est un coup avec Jean-Luc, un coup avec Olivier. On est dans la démarche d'une primaire de la gauche, qui d'ailleurs s'éloigne un peu maintenant, il faut le dire. Et puis, bon, voilà, à force d'essayer de marier, non pas l'eau et le feu, mais en tout cas de rapprocher les deux blocs, c'est une démarche louable, mais au bout d'un moment, l'électeur, il sait plus très bien où il est. Et puis, il y a le bilan. Il y a le bilan des villes écolos. J'avais eu l'occasion d'en parler à l'occasion d'un sondage il y a quelques semaines où l'opinion des administrés dans les villes détenues par les écologistes était quand même assez mauvais. Non pas sur les questions environnementales, mais sur d'autres questions qui étaient la sécurité, qui étaient le stationnement, qui étaient la circulation. Toutes ces questions qui ont été finalement soit un peu négligé par les écologistes, ou en tout cas, bon, mais ils ont pas été au rendez-vous. Hein, voilà, lorsqu'on, effectivement, il faut expliquer, pour avoir un air plus sain, moins pollué, il faut diminuer la circulation automobile, à condition, de mettre en place quand même des alternatives de transport en commun qui soient, suffisamment séduisantes pour faire que, les gens abandonnent leur véhicule automobile pour des transports en commun dans lesquels ils sont bien, qu'ils trouvent facilement à n'importe quelle heure et où ils sont en sécurité, et où ils peuvent transporter, le cas échéant, un certain nombre de choses, et puis voilà, que des personnes âgées puissent les emprunter, que des familles avec des poussettes, des gamins, les courses, etc., puissent les emprunter sans aucun problème. Voilà. Donc c'est ça le bilan. Donc
Serge,
si.
Pardon? Tu penses qu'à Bordeaux, c'est ce qui a coûté la mairie à Urmic, du coup? Par
Ah,
exemple?
ça fait partie du bilan, hein. D'après ce que disait le sondage, moi je ne suis pas allé à Bordeaux voir en détail ce qui avait posé problème, mais ce qui est clair, c'est que sur les questions environnementales, les gens disent oui, bravo, mais c'est le minimum qu'on puisse attendre des écologistes, on est bien d'accord. Mais sur les autres questions qui font qu'un maire est jugé efficace ou pas, et en particulier la sécurité, le rendez-vous n'a pas été honoré. Voilà, et on sait que la sécurité est une préoccupation majeure des Français aujourd'hui, à tort ou à raison, on peut en discuter ensuite. Mais en tout cas, il y a une demande de sécurité très forte, et lorsqu'on n'y répond pas, il y a un souci.
Bon Serge, tout le monde t'a vu hier hein, aux nouveaux médias. Ça parle que de ça sur le chat. Le petit caméo a été bien apprécié. Parce que pour la petite histoire, t'es arrivé à l'heure, hein, t'es pas arrivé en retard.
Oui,
C'est
alors
derrière,
je
hein.
suis arrivé même en avance avec Benjamin Danan. On est arrivé, il devait être 16h35, la conférence commençait à 17h. On a même tourné un petit plateau devant de la salle. Puis ensuite, on est allé positionner notre caméra. Et comme je le fais souvent, moi, je reste à côté de la caméra. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le JRI qui est avec moi, Benjamin Danan en l'occurrence. Il faut qu'on puisse échanger, hein. Et puis deuxièmement, moi, j'ai toujours un micro main qui est relié à la caméra, de manière à pouvoir, le cas échéant, poser une question à un responsable s'il passe dans notre périmètre, ou lui dire alors, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien? Voilà. Donc ce sont des habitudes de travail. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon m'a vu un peu tardivement, donc il a cru que je venais d'arriver, et c'est pour ça qu'il a demandé qu'on m'apporte une chaise, alors que bon, il n'y avait absolument aucun problème pour rester debout. Voilà. Je dois vous dire, pour que vous compreniez bien la situation, c'est que Jean-Luc Mélenchon et moi, on se connaît depuis 1983. Comme j'ai eu l'occasion de lui dire en partant, j'ai dit, disons, Jean-Luc, ça fait maintenant 46 ans qu'on se connaît, ce qui ne nous rajeunit pas ni l'un ni l'autre. Voilà. Et il m'a répondu, malheureux, il faut jamais faire ça, parce qu'à ce moment-là, on est pris de vertige absolu sur le temps qui passe, sur nos itinéraires. Voilà, donc les gens, j'en profite pour dire que les gens qui essayent d'avoir une approche psychologique de ce que je pourrais dire sur LFI, c'est parce que Faubert, il n'aime pas Jean-Luc Mélenchon et tout. Vous seriez très étonné du type de rapport que nous pouvons entretenir avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a certainement des désaccords politiques, ou en tout cas des analyses qui ne sont pas raccord. Il n'empêche que, bah, voilà, moi, il y a plein de gens pour qui j'ai de l'estime, quand bien même je pense qu'ils se plantent sur un certain nombre de questions. Voilà, et Jean-Luc Mélenchon fait toujours partie des gens pour qui, par ailleurs, indépendamment de son rôle politique, j'ai de l'estime. Voilà, donc ça ne me gêne absolument pas de le dire, et cette estime, je pense, est réciproque. Voilà, c'est tout. C'est peut-être des choses difficiles à comprendre pour des gens qui raisonnent de manière binaire en disant ami, ennemi, machin. On peut avoir de désaccords politiques importants, et cependant entretenir des liens d'estime réciproque. Chaque fois qu'on se croise quelque part, il ne manque pas de me saluer, je ne manque pas d'aller le saluer, voilà, et on papote et on se raconte des histoires qui sont celles, on va vous le dire, de notre génération, si je puis dire, même si Jean-Luc est un peu plus avancé en âge que moi, mais qui appartiennent à une époque totalement révolue, du trotskisme des années 70, etc. Donc ça nous fait bien rire d'ailleurs. Voilà. Et on ne parle pas d'ailleurs de politique politicienne du moment, hein. C'est très rare. On parle de choses beaucoup plus générales. Qui sont celles de gens de notre âge et avec notre histoire personnelle. Voilà, on a chacun vécu des choses. Des fois, nos parcours se sont croisés, des fois, ils se sont éloignés. Mais comprenez-le, chacun est dans son rôle. Ça ne fait pas de moi un journaliste complaisant, et ça ne fait pas de lui un responsable politique qui me ménagerait le cas échéant. Voilà, je suis certain que si nous nous retrouvions sur un plateau dans le cadre d'une interview, il aurait la dent dure, mais il aurait raison. Et je ne serais pas du tout complaisant avec lui. Voilà.
Alors Serge, sur le chat, ça parle beaucoup de l'alliance au second tour avec LFI du PS. Donc ça va être, on va en parler, je pense que tu vas en parler longuement. Une question de Berxandre sur le chat. Y a-t-il une troisième voie? Est-ce que la gauche se résumera-t-elle à cette dichotomie pour ou contre LFI? Ou est-ce que il y a une troisième voie qui existe?
Ah tiens, il y a un mec, c'est amusant. Moi, je le savais que Serge, il troll pour que les gens cliquent sur ses vidéos. Il aime Jean-Luc. Ah là là. Non, mais sachez que, juste pour conclure ce chapitre des relations journalistes et responsables politiques, il y a des responsables politiques que j'aime bien aussi, ailleurs, dans d'autres camps. Voilà, je pense, il y avait un type que j'aimais bien qui malheureusement est décédé, député Cesarini, que j'aimais bien. Voilà, il était macroniste et vraiment c'était pas ma tasse de thé. Et pourtant j'avais une grande estime pour lui. Donc il y a plein de gens que j'aime bien individuellement et dont je ne partage pas les idées. Voilà. Où je ne partage pas une partie des idées. Voilà. Donc, alors il y a quelqu'un qui me dit, Bakounine était un bon ami de Staline. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Donc, alors, question.
Est-ce qu'il y a une
Donc,
troisième voie possible, Serge, du coup, pour LFI? Est-ce que le débat à gauche, donc jusqu'à la présidentielle, va se résumer à pour ou contre LFI? Ou est-ce qu'il y a un rabibochage, troisième voie possible?
ah, mais si le débat c'est pour ou contre LFI, je veux dire, autant qu'on parte tous en vacances. Si le débat concernant notre pays commun, la France, c'est pour ou contre LFI, faut tous immédiatement qu'on arrête de faire tout ce qu'on fait. Hein, partons ailleurs, sur les routes, parce que la vie française, la vie politique française, ne peut pas s'organiser autour de LFI. Ça, ce serait aller dans le mur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment on fait pour que cette société où les inégalités sont croissantes, pour arrêter que ces inégalités grandissent. Ça, c'est une vraie question. Comment on fait pour restaurer des services publics qui sont déficients? Comment on fait pour faire que toute une génération, celle qui est dans les écoles, celle qui est dans les universités, puisse, à la sortie du système de formation, trouver des emplois en rapport avec sa formation et s'épanouir. Bref, comment on construit un avenir digne pour les générations qui viennent? Voilà, comment on fait pour préserver l'environnement? Tout ça, ce sont de vraies questions. Si pour ou contre LFI, moi, je ne suis pas persuadé encore que LFI soit le plus grand danger qui menace la France. Voilà. Je pense que LFI, si vous voulez ma position sur LFI, je vous la fais en 30 secondes. Je pense que la radicalité de LFI lui a permis de structurer un socle solide qui ne bougera pas. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ce socle et cette radicalité l'empêchent de s'ouvrir à d'autres couches sociales, à d'autres horizons. Et agglomérer d'autres gens, des gens qui viennent d'ailleurs, d'autres horizons politiques. Voilà. Donc c'est le problème qui est posé aujourd'hui à la France insoumise, c'est sa capacité à rassembler au-delà de ce socle qu'elle a constitué. Et je le dis, c'est un socle vraiment en béton. Tous ceux qui me disent, ah là là, LFI va s'écrouler, etc. Non, LFI ne s'écroulera pas. Mais le problème, c'est que LFI peut stagner. Ça, c'est le risque. C'est-à-dire que ces mouvements qui se constituent dans l'histoire et qui, à un moment donné, arrivent à ce qu'on pourrait appeler une masse critique, se pose pour eux la question ensuite d'être capable de rassembler d'autres forces, de faire venir des gens. Voilà. Alors, on me dit.
Il y a
Oui,
Andrea sur le chat, là, je sais pas si tu as vu. Est-ce que Mélenchon est encore en capacité d'enclencher une dynamique pour la présidentielle? C'est ça le débat.
honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question, je me la pose. Hein, je n'ai pas réponse à tout. Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon est en mesure de retrouver la dynamique qu'il a pu avoir, par exemple, en 2017 ou en 2022. Voilà. Pourquoi? Parce que le capital d'antipathie aujourd'hui est très important. Et que finalement, en politique, à l'arrivée, le capital d'antipathie, c'est ce qui bloque. Alors, je sais bien que la barre d'entrée, le ticket d'entrée pour le deuxième tour de la présidentielle sera extrêmement bas. Hein, la multiplicité des candidatures fait que 14%, 15%, 16%, on peut espérer être au second tour. Voilà. Et si vous prenez la masse des sondages sur les 3 ou 4 derniers mois, vous constaterez que Bon, il y a plusieurs personnalités qui sont dans ce créneau. Donc, on ne sait pas si ces gens, ça, enfin, je veux dire, entre un Édouard Philippe et un Jean-Luc Mélenchon, bon, ben, ils sont en mesure, peut-être l'un ou l'autre, d'être au second tour. Mais bien malin celui qui est capable de le dire aujourd'hui. Moi, je suis totalement incapable de vous dire si Jean-Luc Mélenchon va déclencher une dynamique derrière lui qui va faire que, naturellement, il va devenir le candidat de toute la gauche. Lui, c'est ça qui était important dans cette réunion d'hier, au-delà de l'anecdote de savoir si j'avais une chaise ou pas, ce qui est important, c'est l'annonce qu'il a faite. C'est que, premièrement, le premier rendez-vous qu'il fixe, c'est les sénatoriales et un accord national sur l'élection des sénateurs de gauche. Donc, ce serait des sénateurs tantôt insoumis, tantôt socialistes ou tantôt communistes, mais les uns et les autres votant pour le sénateur le mieux placé. Donc, il faut arriver à se répartir les circonscriptions sénatoriales. Et puis, deuxième problème ensuite, enfin, deuxième rendez-vous, c'est qu'il conditionne, d'abord, il a décidé qu'il serait candidat. Donc, c'est pas, on va tous se mettre d'accord, machin, on va faire une primaire, un vote, un truc. Non, non, enfin, il y aura un candidat insoumis. À mon avis, je suis prêt à vous parier qu'il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Mais donc, il y aura un candidat insoumis. Ce candidat insoumis conditionne, le déroulé qui suit la présidentielle, c'est-à-dire les législatives, à un accord global. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, hier, nous a dit, la condition, c'est que si vous voulez un accord sur la présidentielle, il faudra qu'il y ait un accord aussi national sur les législatives. Donc, il fait un pacte. Voilà. Je pense qu'en l'état, cette demande est irrecevable pour le Parti socialiste. Elle est irrecevable pour les écologistes, elle est irrecevable pour Place Publique et Glucksmann. Voilà, donc je pense qu'on aura plusieurs candidats de gauche au premier tour et bah, ensuite que le meilleur gagne. Hein.
Tu parles un peu du PS là, Serge, du coup, sur le chat, on a
Alors, le PS.
Bergsandre.
Alors, hier, nous avions.
Attends, parce qu'il y a juste une petite question, juste parce que pour enchaîner. Comment expliquer l'attitude de Faure qui, en condamnant trop souvent LFI, fait le jeu de ses adversaires socialistes, donc Hollande, par exemple. Comment il va, Olivier Faure, là?
Il va pas fort.
Il va pas fort, forcément.
Il va pas fort. Non, c'est un mauvais jeu de mots, mais bon. On a eu hier soir une de ces comédies ordinaires qui émaillent l'histoire du Parti socialiste, où on se réunit, et bien sûr l'opposition dit, ben, l'opposition interne dit, on a des résultats de merde, c'est la faute à Jean-Luc, pardon, à Jean-Luc Mélenchon. Ils disent ça aussi, mais
Non, c'est la faute à Olivier.
c'est la faute à notre premier secrétaire qui a eu une attitude ambiguë. Lequel premier secrétaire répond, vous êtes bien gentils les amis, mais je vous signale que c'est ceux qui disent ça aujourd'hui qui ont été les premiers à solliciter des alliances avec la France insoumise. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que le procès qui est instruit contre Olivier Faure est instruit par ceux-là même qui, par exemple, à Tulle, ont passé un accord avec la France insoumise. Et dans d'autres villes, je veux dire, Johanna Roland, numéro 2 bis ou 2 terre du Parti socialiste, dès le lendemain de l'annonce où Olivier Faure avait dit il n'y aura jamais d'accord national avec LFI, s'est empressé d'aller faire un accord avec la France insoumise.
Est-ce
Donc,
qu'on a des
c'est cette
infos sur
absence de
Johanna
cohérence
Roland?
qui fait que le Parti socialiste a lui aussi une image totalement brouillée. Il est inaudible. Les gens ne comprennent pas. Parce que. Qu'est-ce que ça veut dire un accord national et alors pas mais des accords au cas par cas? Mais des accords au cas par cas, au bout d'un moment, ça ressemble beaucoup à un accord national. Hein. Quand on fait 10, 15, 20 accords locaux, au bout d'un moment, ça ressemble à un accord national. Voilà. Donc le procès qui est instruit contre Olivier Faure est le suivant. Mais c'est une vraie question existentielle pour le Parti socialiste. Une question existentielle qui se pose depuis la fin du quinquennat Hollande. C'est fondamentalement où se situe le Parti socialiste. Les Allemands ont tranché cette question en leur temps, c'est le congrès de Bad Godesberg, où ils ont rompu avec la tradition marxiste et ils ont décidé qu'ils étaient ouvertement, officiellement sociaux-démocrates. Moyennant quoi, ils n'ont pas d'état d'âme et tout le monde sait où ils sont. Aujourd'hui, on a un parti socialiste où il y a, où cohabitent, coexistent des gens qui sont sociaux-démocrates, certains sociaux-libéraux et d'autres socialistes. Et bien évidemment, chaque fois qu'il y a un rendez-vous important, ça coince. Et aujourd'hui, Olivier Faure, qui n'a été reconduit à la tête du Parti socialiste que par, pas par miracle, parce que j'exagère, mais enfin, la marge était courte. Aujourd'hui, bien sûr, certains pensent que l'heure est venue de le renverser. Et Boris Vallaud n'est pas le dernier. Boris Vallaud, qui finalement est celui qui fait les rois, Boris Vallaud, aujourd'hui, ne réclame pas le départ d'Olivier Faure, mais demande une clarification. Voilà, parce que c'est ça qui est particulier, c'est que tout le monde monte au créneau, mais personne ne demande le départ d'Olivier Faure.
Mais
C'est un truc.
Serge, c'est quoi une clarification dans le PS par exemple? Concrètement, ça donnerait quoi?
C'est décider une ligne. Franchement, si Olivier Faure disait, bon, ben, mesdames et messieurs, on a réfléchi, on a discuté, voilà. On n'a rien à voir avec la France insoumise, il n'y aura jamais d'accord avec la France insoumise, chacun son chemin, fin de l'histoire. Bon, ça peut être une ligne. Une deuxième ligne, c'est de dire, nous avons des différences avec la France insoumise, mais nous sommes tous de gauche et la gauche doit se retrouver lors des grands rendez-vous. Voilà. Et donc, c'est pour ça que même si on s'engueule, nous sommes pour des alliances au sommet, à la base, et nous voulons préparer ces alliances très en amont. Ça, c'est une autre ligne. Voilà. Mais la ligne qui consiste à dire le lundi, alors jamais d'alliance et le mardi matin, on fait des alliances, là, les gars, on va dans le mur, c'est évident. C'est évident. Donc, il faut choisir. Est-ce qu'ils sont hollandistes? Est-ce qu'ils sont sociodémocrates façon Carole Delga, hein, mettons? Ou est-ce qu'ils sont socialistes au sens héritage du Parti socialiste de Pierre Mauroy, François Mitterrand, etc., etc. Mais ça, ils n'ont pas choisi. Donc, à chaque fois, ils se tirent une balle dans le pied. Hein. C'est aussi simple que ça.
Oui,
Le Parti socialiste ne sait pas où il habite.
par exemple, Serge, est-ce qu'Olivier Faure pourrait coexister avec un PS qui est désormais hollandiste, imaginons? Ça
Alors, le
marcherait, ça?
PS n'est pas hollandiste, hein, parce que.
Ah, mais si, il y a une clarification côté Hollande, tu vois? Qu'est-ce que ça
Bon,
donnerait?
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le propre du Parti socialiste a toujours été d'être un parti de barons, d'éléphants, disait-on dans le passé. C'est-à-dire des gens qui sont bien implantés dans une circonscription, où il y a des députés, des maires, des présidents d'interco, des conseillers régionaux, des conseillers généraux, etc., etc. Bon. Donc, où il y a, c'est un parti socialiste, c'est un parti d'élus. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un parti de, il y a des militants, bien sûr, mais c'est d'abord un parti d'élus. Ce qui structure le parti, c'est un réseau d'élus. Bon. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le Parti socialiste a longtemps été conduit par une incarnation. Là, il n'y a plus d'incarnation. Hein, il y a eu Mitterrand, il y a eu Lionel Jospin, mais là, on est en panne, hein. On est totalement en panne. Olivier Faure, c'est pas lui faire injure que de dire que bah, il n'imprime pas quoi dans l'opinion. Tout le monde sait que c'est le premier secrétaire, mais ça manque un peu de souffle, hein, tout ça.
Mais là, pour 2027, Serge, il n'y aura pas d'incarnation.
Ah ben, il faut qu'ils en trouvent une. S'ils veulent exister, il faut qu'ils en trouvent une.
Parce que sur le chat, là, ça parle de de primaire. Quel est ton avis sur les primaires?
Alors, je crois que
Est-ce que tu
primaire,
penses...
je
Vas-y,
crois que
on
la
t'écoute.
primaire, elle est en train de. Je crois qu'on peut l'oublier, la primaire. Je ne veux pas être méchant,
Oui,
mais.
mais du coup, il n'y aura pas d'incarnation.
Je pense qu'il n'y aura pas d'incarnation commune. Je pense qu'il y aura certainement un candidat qui se présentera au nom du Parti socialiste. Je pense qu'il y aura Jean-Luc Mélenchon. Je pense que peut-être il y aura une candidate ou un candidat écologiste et que tout le monde ira à l'abattoir. Voilà, et on dira, tiens, c'est marrant, il n'y a personne au deuxième tour. Non, non, mais il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Tout le monde pense qu'il y a une. Comment dire? Inconsciemment, à gauche, on pense qu'il y a un candidat qui tout à coup va s'imposer et autour duquel pourra se constituer un vote utile. Ça a été le cas de Jean-Luc Mélenchon en 2022. 2022, À un moment donné, au sein du Parti socialiste, on se dit, bon, allez, les conneries avec Hidalgo, c'est terminé. Le mec qui a une chance de passer, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et dans le vote de Jean-Luc Mélenchon, il y a une bonne moitié, ou en tout cas, il y a 10 points, ce sont des socialistes qui, dès le premier tour, ont dit, si on veut qu'il y ait quelqu'un au deuxième tour, c'est Mélenchon. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça va, il ne faut pas chercher des explications très compliquées dans
Et
la vie.
Je pense que cette mécanique est impossible en 2027.
Ben, je pense qu'elle est difficile à retrouver.
Parce que s'ils mettent François Hollande, Serge, s'ils mettent François Hollande en candidat.
Ben, s'ils mettent François Hollande, il y a plein de gens qui iront la pêche. Bon, personne ne veut de François Hollande. Faut arrêter. François Hollande est persuadé, pardon de le dire, enfin, ça a été assez pénible pour lui d'arriver à se faire élire à l'Assemblée nationale. Si demain il y a une dissolution, je suis pas sûr que François Hollande retrouve un siège. Alors de temps en temps, il nous dispense ses bons conseils, quitte à d'ailleurs planter des poignards dans le dos de ses camarades en campagne, hein, comme le truc de dire, bon, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi a employé, enfin, je ne sais pas s'il a employé l'expression, je ne sais plus souvenir, mais enfin, en tout cas, bon, le message était Mélenchon nous plombe, juste au moment où localement. Les socialistes étaient en train d'essayer de négocier des accords avec la France insoumise. Ça, c'est le meilleur truc pour tuer le jeu. Mais lui, c'est son intérêt, son objectif. Lui, il va être le chef du champ de ruines. Il va être le roi des ruines. Mais ils sont pleins à être comme ça. Ils sont pleins. Ils sont persuadés qu'une fois qu'ils auront tué tout le monde, ce sera formidable. Ils pourront espérer un avenir meilleur. Mais non, je ne pense pas. Il faut bien comprendre que c'est la gauche qui sont tous en train de détruire par cette absence de réflexion sur ce que c'est que l'unité à gauche. C'est la question que je posais au début, c'est qu'est-ce que c'est le continent de la gauche? Qu'est-ce que c'est les frontières de la gauche? Où ça commence? Où ça s'arrête? Est-ce que la gauche est de Glucksmann à Ruffin? Est-ce que c'est de Glucksmann jusqu'à Mélenchon? Est-ce que c'est de Mélenchon jusqu'au Vert? Voilà, il faut le dire. Puis une fois qu'on a identifié le territoire, on peut avoir un champion du territoire. Mais
comment on le désigne ça concrètement, Serge? À quel moment on peut poser des limites et des frontières?
Mais la primaire sans des gens qui veulent participer, enfin une primaire sans Jean-Luc Mélenchon, sans le candidat désigné par le Parti socialiste. Et qui arbitrerait entre Clémentine Autain, François Ruffin et Marine Tondelier. Bon, on a compris que la dynamique qui pourrait s'enclencher autour de cette désignation serait faible. Le propre d'une primaire, ce n'est pas simplement de trouver un candidat, c'est d'enclencher une dynamique autour de ce candidat. En l'occurrence, là, bah, ce n'est pas le cas.
Parce que Glucksmann, bien sûr, il ne va pas y mettre les pieds non plus.
Ah ben non, mais il n'y a pas intérêt, lui. Lui mettre, franchement, sa ligne politique à lui, c'est de dire, ben, moi je suis un gars à part des autres, donc aller dans une primaire, c'est reconnaître de fait qu'il appartient à ce continent de la gauche et que donc, voilà. C'est tout le problème. Donc aujourd'hui, on a une gauche qui est orpheline, on a à l'intérieur de la gauche un parti qui conserve un bon réseau d'élus, c'est le Parti socialiste, mais qui n'a pas d'incarnation. Et on a un parti qui a une incarnation forte, c'est la France insoumise, mais qui a une très faible, aujourd'hui, implantation territoriale. Ça commence, mais une implantation territoriale, ça se construit sur 10, 20, 30 ans. Hein. C'est pas, voilà, il y a un début, il y a cette ville, dont Saint-Denis, très bien, c'est un début de conquête. Tant mieux, ce aurait été peut-être plus adroit de penser à commencer cette conquête plus tôt, mais bon... Elle commence, et à n'en pas douter, je pense que la France insoumise continuera sur cette lancée. Il faut bien comprendre un truc, c'est que l'implantation territoriale, c'est ce qui permet de résister. Regardez LR fait un... Les Républicains font un bon score en termes d'élus, c'est ça le comble. Ils se divisent, ils n'ont pas d'incarnation, c'est le bordel chez eux, il y a un type qui s'en va tous les jours, ils se trahissent entre eux, ils s'assassinent. Donc c'est un désastre sur le plan politique national, mais sur le plan implantation locale, Ça résiste, en tout cas dans les villes 30 000, 50 000 habitants. Bon, ils ont perdu Nîmes en revanche, hein, ce qui est quand même pour eux une grosse claque sur le coin de la figure. Mais sur les villes de 30, autour de 30 000 habitants, ils continuent à être très forts. C'est ce qui leur permet de résister. Une autre question?
Oui, j'écume. Alors, ça parle un petit peu d'abstention sur le chat. On a Quentin qui nous dit jusqu'à où on peut aller en termes d'abstention pour que nos dirigeants se rendent compte que les Français veulent un autre système. Mais bon, le problème de l'abstention, c'est qu'on est incapable de la catégoriser.
Oui, alors et puis moi je vous cache pas que c'est l'élément le plus inquiétant, à mon avis, du scrutin. C'est que nous sommes à 14-15 mois d'un rendez-vous important où, quoi qu'il arrive, il y aura un changement brusque. Si c'est l'extrême droite qui remporte la présidentielle, il y aura une rupture. Si ce n'est pas l'extrême droite, c'est qu'il se sera produit quelque chose dans le pays, une espèce de sursaut, et en tout cas, le pays aura retrouvé une dynamique politique contre l'extrême droite. Mais de toute manière, cet affrontement institutionnel va incontestablement bouleverser la situation politique. Mais à 15 mois, on s'aperçoit que les électeurs désertent les urnes comme ils ne l'ont jamais fait depuis le début de la Ve République. Je rappelle que c'est le plus fort taux d'abstention depuis 1958. Voilà, il faut
Hors
le
Covid.
savoir. Hors
Hors
Covid, mais
Covid.
enfin le Covid, on comprend bien qu'on était à 2 jours du grand renfermement, si j'ose dire. Donc il était évident que les gens n'allaient pas prendre le risque de se mettre en danger pour aller voter, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tenir compte de la participation de 2020. Ça n'a pas de sens, hein.
Alors,
Mais cette abstention est extraordinairement préoccupante. Elle en dit beaucoup sur la crise politique, c'est-à-dire quand on va pas voter, ça veut dire que on considère, c'est pas une question d'offre politique, c'est qu'on considère que de toute manière les politiques ne sont pas à même d'apporter des réponses, des solutions à la crise que vivent nos concitoyens. C'est ça que ça veut dire. C'est pas dire ils sont tous mauvais, ils sont tous caca, je ne veux pas voter, je les aime pas. Non, non. Parce que l'expérience montre que même si on peut tous les trouver assez minables, il y en a toujours un ou deux, on se dit, bon, allez, lui peut-être quand même, on ne sait jamais. Mais là, le sentiment général dans l'opinion, c'est de penser que les politiques aujourd'hui sont incapables d'apporter les solutions qui nous permettront de sortir de la crise. Et donc on a une crise politique, on a une crise institutionnelle. On a une crise sociale. Moi, je suis désolé, les gens qui à chaque fois passent pudiquement sur la crise sociale. Oui, on a une crise sociale. Les inégalités dans ce pays atteignent des proportions jamais vues. Et ce n'est pas fini. Si on continue, je pense qu'on va arriver dans une société totalement inégalitaire. Et en plus, tiens, c'était Sébastien Chenu. Le responsable du Rassemblement national qui le disait l'autre jour là, dans un extrait vidéo que j'ai mis sur le dernier Pôle Express, mais il dit les métropoles font sécession. Mais ce qu'il était en train de dire, c'est la France peau de léopard, c'est-à-dire on a des grosses métropoles avec un tissu économique autour, et puis des gens qui finalement bon, arrivent à gagner plus ou moins bien leur vie, et puis on a des zones blanches où il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus de logement, il n'y a plus de médecins, et où c'est le désert, et on les abandonne. Voilà. Donc il y a un côté ségrégation sociale, relégation sociale, exclusion sociale, et puis donc il y a des métropoles qui vivent leur vie de métropole et qui sont finalement d'ailleurs au niveau européen, parfois je pense qu'il y a plus de points communs entre une métropole française, une métropole italienne ou espagnole. Que entre une métropole française et une ville moyenne de France. C'est-à-dire que la distance sociale, culturelle, économique, voire démographique, s'est accrue. Si vous regardez les cartes de la démographie, vous savez que la France, il y a ce qu'on appelle la diagonale Est-Ouest, qui de tout temps, presque une espèce de vide économique,
Ça
social,
s'appelle
politique.
la diagonale du vide, hein.
Aujourd'hui, c'est la diagonale du vide. Cette diagonale, aujourd'hui, il y a un recul démographique. C'est-à-dire qu'il y a des zones en France qui sont dépeuplées, mais tout simplement parce qu'on ne peut plus y vivre, parce qu'il n'y a pas le minimum pour s'y installer. Voilà. Donc ça m'inquiète. Tout ça m'inquiète, moi. À la limite, je suis comme le reste des Français. Moi, je me fous un peu de la couleur de l'étiquette politique de celui qui ou celle qui pourrait nous sortir de l'ornière. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on sorte ce pays de l'ornière, parce que ce pays le mérite, les Français le méritent. Et on a aujourd'hui une classe politique qui a des œillères, qui pense qu'à jouer des coups à trois bandes et qui va dans le mur. Voilà, je suis désolé, mais.
Mais non, il y a Dominique de Villepin, Serge.
Ah, oui, David Pain. J'aime beaucoup les gens qui aiment bien Villepin et qui disent, ah, c'est bien, c'est l'homme qui a dit non aux États-Unis, c'est très bien. Ils oublient que le CPE, c'était Villepin aussi, hein, le contrat à première embauche. Qui a suscité un mouvement de révolte dans la jeunesse, qui a fait que Jacques Chirac n'a jamais promulgué la loi en question et on s'est empressé d'oublier ce funeste projet qui consistait à payer les jeunes travailleurs finalement en dessous du SMIC. Bon, alors il y en a qui rêvent encore hein, du côté du
Ah
patronat de remettre en piste, mais enfin bon, on sait à quoi s'en tenir.
oui.
Alors.
Mathieu qui nous demande sur le chat, donc s'il a bien compris, à gauche, il y aura bien trois candidats, quoi qu'il arrive. Candidat LFI,
C'est mon
candidat.
sentiment. En l'état, c'est mon sentiment.
Un candidat primaire, un candidat LFI, un candidat hollandiste, quoi.
Non, il
Ce
y
serait
aura
ça.
M. Glucksmann, sans
Ah oui.
doute Jean-Luc Mélenchon, ou peut-être un insoumis, mais enfin, je
Est-ce que
pense que
tu
c'est
penses,
Et puis,
Serge?
un candidat qui sera trouvé, je pense qu'il sera une incarnation désignée par le Parti socialiste. Voilà, mais qui?
Donc il y en aura quatre.
Je pense que le candidat de la primaire, je pense que la primaire, elle est morte. Hein. Je ne veux pas faire de peine à Clémentine Autain, Ruffin ou Corbière. Je pensais que cette initiative était sympathique et qu'il fallait saluer cet effort pour sortir tout le monde du marais. Mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Voilà. Mais il y a d'autres initiatives bien sympathiques. Gabriel Attal nous annonce un comité de liaison entre Édouard Philippe et lui-même. Bon,
Non, et
mais
puis
non, mais je veux
attends,
dire, on rigole, on a beaucoup parlé de la gauche, mais un petit mot quand même sur la droite. Ils sont dans la même merde. Franchement, quand vous regardez ce qui se passe, quand Bruno Retailleau dit, ben moi, ouais, bon, ben Christian Estrosi, je ne le soutiens pas, alors que son parti. Normalement, a signé un accord national pour soutenir
il veut
Christian
partir, hein.
Estrosi. Et il dit entre Estrosi et Ciotti, je choisis pas. Donc, il tue Estrosi, hein, qui était déjà mal en point. Quand Estrosi en est à appeler les voix de gauche pour essayer de faire barrage à Éric Ciotti, on est chez les dingues. Et puis quand Gérard Larcher est obligé de rappeler que quand même il y a un accord national qui serait peut-être urgent d'aller sauver le soldat Estrosi,
Estrosi.
bon, on a compris quoi, c'est d'un ridicule consommé. Et là, David Lisnard qui nous dit, ben, moi je m'en vais, je vais vivre ma vie. Ils sont en train d'exploser aussi en vol. C'est-à-dire que le désastre que nous constatons à gauche, il existe également à droite.
Est-ce
Il
que tu as
existe
vu,
également à droite. On est en
Serge
train de
Agnès?
s'entre-déchirer.
Est-ce que tu as vu Serge Agnès Pannier-Runacher qui a dit qu'elle veut un candidat qui va de Xavier Bertrand jusqu'à Glucksmann?
Bah,
Elle,
écoute,
c'est.
je pense que c'est bien. Non, mais de toute manière, là, on est aux Galeries Farfouillettes. Hein. C'est le concours Lépine de l'idée la plus saugrenue. Donc, alors, chacun y va de sa solution. Et si on faisait des alliances. Bon, aujourd'hui, le truc inquiétant, c'est que la désagrégation ou la décomposition de la droite fait que le scénario de l'union des droites défendu par Ciotti depuis longtemps, d'abord il a été élu et brillamment élu, ça donne de la chair à cette ligne politique. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a bien sûr un désaccord et ça c'est la prochaine baston et elle aura lieu au Rassemblement national. Entre Marine Le Pen et Bardella. Bardella, lui, est persuadé qu'il faut une union des droites. Marine Le Pen pense qu'il faut continuer sur la ligne ni gauche ni droite, même si elle est un peu plus ni gauche ni droite. Mais elle pense que la force du Rassemblement national, c'est d'être un parti qui a su attirer à lui des catégories sociales qui, historiquement, étaient plutôt à gauche. Voilà. Donc, le Rassemblement national a su devenir, aux yeux notamment dans le nord de la France, c'est sur la question sociale que le Rassemblement s'est développé, alors que dans le sud de la France, c'est plutôt sur les questions d'immigration. Et donc, Marine Le Pen pense que si on change de ligne et qu'on commence à devenir le réceptacle de l'Union des droites, le Rassemblement national risque de devenir lui aussi un parti de droite et plus un parti d'extrême droite. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a peur que l'identité du Rassemblement national disparaisse. Et à mon avis, elle n'a pas tort sur ce plan. De son propre point de vue, je pense que s'ils font l'Union des droites, bon, bah, bien sûr, ils pensent le faire avec eux en tête, mais ils risquent de se faire bouffer aussi. Hein, voilà.
Ouais. Serge, on parle de la droite là. Une question sur le chat de ABFS. Est-ce que Édouard Philippe fait consensus à droite? Où en est
Non.
Édouard Philippe?
Non, il ne fait pas consensus parce qu'il y a plein de gens qui disent. Bon, Édouard Philippe, il fait quoi dans l'opinion? Il va faire 15, 20%. Bon, bah, s'il est à 20%, pourquoi pas moi? C'est pas une question de ligne politique, là, c'est une question de poids électoral. Les gens disent, Édouard Philippe, pourquoi pas moi? Attal, il est en train de se dire, finalement, je pourrais peut-être incarner quelque chose.
Tu verrais qui à droite là pour le moment?
Bah alors à droite, si on fait les comptes, on a le couple infernal Retailleau-Wauquiez. On a David Lisnard qui joue sa petite partition, mais qui est
Mais ça
pas.
représente quoi Lisnard? Parce que il en parle beaucoup, il a un petit comité, mais c'est quoi en fait? Ça représente quoi?
Électoralement, pour l'instant, pas grand-chose, mais le personnage peut créer une dynamique. Il
C'est quoi
a.
là? C'est une droite, c'est quoi? Une droite type horizon modéré, quoi. C'est pas
C'est une
modéré.
droite, plus musclée qu'Horizon, mais c'est surtout une droite stable.
C'est le
Pour comprendre
patronat, quoi.
quel est le problème aujourd'hui à droite, il faut inverser le questionnement. Aujourd'hui, à droite, des gens qui d'habitude votaient pour la droite modérée sont inquiets de la montée de la France insoumise. C'est-à-dire que tout à coup, ils se disent, mais est-ce que la droite est en mesure de nous protéger d'une irruption de la France insoumise? Et c'est ce qui explique, par exemple, le vote sur Sarah Knafo à Paris. À Paris, c'est dans le 16e arrondissement, le très bourgeois 16e arrondissement, où on ne parle pas de lutte de classe, on parle d'ossement, on vit dans un autre monde. C'est là qu'elle fait ses meilleurs scores. Et pourquoi elle fait ses meilleurs scores? Parce que tout à coup, elle apparaît comme en mesure de protéger ces gens-là, là où la droite se montre un peu défaillante, se déchire, n'est pas au rendez-vous, se prend des branlées électorales. Donc voilà, elle devient crédible, même si elle ne représente pour l'instant qu'elle-même. Hein. Bon, elle a réussi à ringardiser son compagnon Éric Zemmour de manière formidable, et je pense que désormais c'est elle qui incarnera Reconquête davantage que Éric Zemmour. Mais elle a compris, elle, que l'électorat de droite était en recherche de protection de sa situation, de ses intérêts, de ses privilèges, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est ça la droite, hein. C'est un syndicat c'est un mouvement. La droite, par essence, c'est le parti conservateur, c'est le parti de l'ordre, c'est le parti de l'immobilisme. C'est pas faire injure, hein, que de dire ça. Mais historiquement, la gauche, c'est le parti du mouvement, de la transformation, et la droite, c'est le parti de la conservation. Voilà. Et là, aujourd'hui, les gens, tout le monde se retrouve orphelin parce que la gauche transforme plus grand-chose et la droite conserve plus grand-chose non plus. Donc, au bout d'un moment, tout le monde se sent orphelin et dit, où va le pays? Et les gens ont bien raison de se poser la question.
Tu as parlé un peu de Paris là avec Sarah Knafo. Paul Roux sur le chat nous dit comment se fait-il qu'Emmanuel Macron a autant appuyé la candidature de Rachida Dati alors qu'un grand nombre d'électeurs macronistes rechignaient à la soutenir?
Alors là, c'est un truc compliqué, parce que moi-même, j'ai eu un peu de mal à comprendre quel était Le but de guerre dans ce soutien, bon, on dégage Bournazel, qui a été élégant. Moi, je trouve que Bournazel, il dit OK, je me désiste, mais moi, je suis plus candidat. Vous faites sans moi. Donc, résultat, le désistement a été une catastrophe pour Rachida Dati, qui, je pense, si elle avait pu lui crever les yeux, lui couper la langue et les mains, elle l'aurait fait. Bon. Rendons-lui cet hommage. Il a dit, bah, puisque c'est ça, puisqu'on me tord le bras, celui qui a tordu le bras, c'est Édouard Philippe et Gabriel Attal. C'est les deux qui ont tordu le bras. Moi, l'histoire de l'intervention d'Emmanuel Macron, j'y crois pas. Enfin, personnellement, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire qu'Emmanuel Macron est intervenu dans ce dossier. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que il avait plutôt intérêt à ce que Rachida Dati l'emporte. Pourquoi? Parce que ça permettait finalement de mettre à son crédit une victoire, une ministre de son gouvernement, soutenue à la fois par LR et par Renaissance, qui remporte Paris. Bon, bah, ça permettait de dire finalement, écoutez, regardez, on a remporté une grande victoire symbolique, on a mis fin à 25, 30 années de magistrature de la gauche. Donc voilà. C'était ça l'histoire. Je crois que Emmanuel Macron est très soucieux de préparer sa sortie. Voilà. Il veut partir par le haut, donc en laissant un peu les choses en ordre derrière lui. Manque de bol, ça n'a pas marché.
Alors, merci à toutes et à tous. Vous êtes plus de 800 là sur le live. Donc, on est en direct encore une bonne demi-heure. N'hésitez pas à poser vos questions. Tu as parlé de Zemmour, tu as parlé de la droite. Il y avait une question tout au début sur les sénatoriales, parce que c'est vrai que, pardon, je me mets en visu, beaucoup de gens ne comprennent rien en fait hein, au
Alors, je vous
sénatorial.
explique.
Comment ça fonctionne?
Je vous explique. Non, mais c'est vachement important.
Ah oui.
Non, parce qu'on se dit, les sénateurs, bon, c'est une espèce de barbon poussiéreux et tout. Alors, d'abord, c'est moins vrai. Ça l'a été longtemps, mais c'est moins. À 95%, les sénateurs c'est un suffrage, c'est un scrutin indirect. Donc, ils sont élus par les conseillers municipaux, hein, enfin les élus au conseil municipal, donc des villes concernées. Et c'est renouvelé, là, le prochain renouvellement intervient en septembre, et c'est la moitié du Sénat qui est renouvelée. Donc, l'important, c'est que d'arriver à se mettre d'accord à gauche, mais aussi à droite, pour faire que un certain nombre de conseillers, les conseillers de parce que bien sûr il y a des groupes politiques à l'intérieur de chaque conseil municipal, et donc il faut que les conseillers en question votent pour un candidat. Et il faut, si on se met d'accord sur un candidat commun à gauche ou à droite, dans une circonscription donnée, bah, ce candidat a des chances de passer. Voilà. Donc, en l'occurrence, l'idée pour la France insoumise, c'est d'arriver à avoir au moins 10 sénateurs. Pourquoi 10 sénateurs? Parce qu'avec 10 sénateurs, on a un groupe et un groupe politique au Sénat, ça permet d'exister. Alors, vous allez me dire, ouais, pourquoi? Parce que machin, et s'ils sont 10 au Sénat, qu'est-ce qu'ils peuvent? Ah, bah, si. Parce que quand la France insoumise, avec le reste de la gauche, arrive à faire passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas au Sénat une force politique capable de reprendre à son compte la proposition de loi, la navette parlementaire s'arrête. Est-ce que vous comprenez bien, hein? Je suis à l'Assemblée, machin, c'est bien, on a 80, 70 députés, on présente une proposition de loi formidable, elle passe, niche parlementaire, on est super content. Et puis après, bah après rien, parce que personne ne la reprend au Sénat, donc la navette parlementaire, bah, s'arrête, et la proposition de loi ne vit pas la vie d'une proposition de loi. Donc il faut qu'il y ait un groupe au Sénat qui puisse reprendre le texte issu du vote de l'Assemblée nationale, le faire réinscrire à l'ordre du jour, de manière à ce que ensuite ce texte, même modifié de fond en comble par les sénateurs de droite, revienne à l'Assemblée, où l'Assemblée le rétablit dans une version qui lui convient. Voilà. Donc, c'est les institutions qui font que quelqu'un qui n'a que des élus à l'Assemblée nationale se retrouve finalement pénalisé. C'est le cas de la France insoumise. Et de la même façon, c'est le cas pour le Rassemblement national. J'en discutais avec Laurent Jacobelli qui me disait, bah, écoutez, nous, franchement, oui, on est certain d'avoir un groupe au Sénat après les élections sénatoriales et de faire élire au moins 10 sénateurs. Voilà l'enjeu.
Et pour
L'enjeu,
LFI,
c'est de participer à la vie des institutions.
dix sénateurs, c'est jouable, c'est.
Tout dépend s'ils arrivent à faire des accords avec le reste de la gauche. C'est un vrai challenge. C'est-à-dire que si union il doit y avoir, elle doit se concrétiser d'abord au sénatorial. Et c'est ce qu'a proposé Jean-Luc Mélenchon hier. L'intérêt de cette conférence sur les nouveaux médias, finalement, c'était un peu du flan, quoi. L'idée, c'était surtout d'avoir un cadre pour faire une annonce politique importante. Et cette annonce politique importante, c'était qu'il proposait qu'il y ait un accord national sur les sénatoriales, c'est-à-dire que l'ensemble des forces de gauche se rencontrent et se répartissent les différentes circonscriptions et s'engagent les uns et les autres à voter pour les sénateurs, pour les candidats de cette espèce de front commun qui serait présenté. Voilà, c'est ça qui est important.
Et le PS lâcherait des billes là-dessus?
Le PS, il est comme tout le monde. Il a intérêt à certains endroits, il a intérêt à ce que un
Ouais.
certain nombre de ses candidats reçoivent le soutien, le renfort de
De LFI.
conseillers insoumis. Comprenez bien, dans les conseils municipaux, jusqu'à présent, il n'y avait que des conseillers municipaux communistes, socialistes, écolos. Bon, donc on se mettait d'accord, on faisait la tambouille, on arrivait à faire élire, dans telle circonscription, c'était plutôt un sénateur écolo, dans l'autre, c'était un communiste, dans la troisième, c'était un socialiste. Il y a un nouveau partenaire, la France insoumise. Donc il va falloir l'intégrer dans la négociation. Et Jean-Luc Mélenchon dit, ben moi je veux que cette négociation elle soit nationale. Pas question de faire un truc avec les insoumis là, parce qu'on les aime bien, on s'entend bien et tout, mais là-bas on ne peut pas les blairer, donc non, pas question de faire un accord. Il veut un accord national. Bon. Est-ce que c'est possible ou pas? J'en sais rien. Hein. Je n'en sais rien. Moi, je pense que tout le monde aurait intérêt à ce qu'il y ait un accord, mais. À l'impossible, nul n'est tenu. Et pourquoi il veut qu'il y ait un accord? D'abord pour avoir donc un groupe à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais surtout parce que ça servirait de test, pense-t-il, Jean-Luc Mélenchon, ça servirait de test, et éventuellement ça amorcerait une dynamique pour la présidentielle. Si la gauche arrivait à se mettre d'accord sur une répartition des sièges au Sénat, à ce moment-là, ou au moins des candidatures, des circonscriptions, ça pourrait peut-être enclencher un accord ensuite. Pour la présidentielle, mais peut-être pas. Voilà.
C'est très précis. Non, mais du coup, là, la stratégie des municipales prendrait tout son sens avec les sénatoriales.
Attends, il y a quelqu'un qui me dit, je trouve que Serge a tort, Édouard Philippe reprendrait toute la droite centriste à peu près soi-disant modérée, donc éligible au vu des gens aisés, bien pensants, pas trop de vagues. Alors, je peux vous dire que, chère Karine. Je pense que vous sous-estimez quand même un élément important, c'est le niveau de haine et de détestation entre Édouard Philippe et les macronistes. Édouard Philippe, c'est quand même le mec qui est arrivé en disant, je pense que le président de la République devrait démissionner. Donc une fois qu'on a dit ça, et qu'il n'a pas démissionné, les gens s'en souviennent et nourrissent un ressentiment, hein, pour le dire gentiment, assez profond à l'égard du mec qui a dit ça. Voilà. Donc, non, et vous trompez pas, c'est pas tout à fait la même clientèle électorale. Édouard Philippe, les gens trouvent que quand même, Édouard Philippe, il essaye de retrouver finalement le courant juppéiste. Hein, voilà, bon, sauf qu'il a vraiment déconné complètement en essayant de désinguer le président de la République. D'abord, ça lui a rien rapporté, mais ça l'a surtout, ça l'a surtout déglingué, quoi. Voilà. Alors, ça
Ça
avait plutôt. Ouais.
parle un peu du prix de l'essence là sur le chat parce que c'est vrai que ça monte là on va arriver bientôt à 3 € le litre de gasoil. Je sais pas si tu as vu, c'est fou. C'est dingue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare là ou
Ben oui,
pour rien?
c'était. Vous verrez ça dans le Bourbon demain, puisque il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a eu pendant les questions, il y a eu pas mal d'interpellations, de questions posées sur ce problème, parce que ça devient un problème essentiel. Alors, la position de la droite pour l'instant, enfin plus exactement, la position du gouvernement est la suivante pour l'instant, c'est pas question de diminuer la taxation des carburants, parce que ça fait des recettes fiscales en moins, et donc à ce moment-là, c'est le budget qui trinque. Pas question de faire des chèques, parce que bah, le principe des chèques, c'est que c'est des mesures qui coûtent au budget. Donc l'idée, c'est de faire pression sur les distributeurs, mais comment on peut dire à Total, ben écoutez, s'il vous plaît, faites un geste, mais enfin, faut être en mesure de. Et puis, il y a un moment donné où, de toute manière, le brut, c'est le brut qui monte. Hein. Pour l'instant, on est en train d'épuiser ce qui avait été acheté avant la guerre, mais on va bientôt être obligé il faut maintenant acheter de nouveau du brut qu'on va raffiner, et ce brut qu'on va raffiner va coûter plus cher, bien sûr, à la pompe. Donc la question, c'est soit blocage des prix, mais le gouvernement ne veut pas en entendre parler. C'est pourtant la solution qui serait la plus conséquente, la plus logique. Voilà. Diminuer les taxations de manière transitoire sur les carburants. Par exemple, on peut envisager une TIPP flottante pendant 6 mois. Ça a été fait par le passé. Dans mon souvenir, c'est bien Rocard qui avait fait ça, je crois. Mais voilà, mais la question des mesures gouvernementales sur les carburants se pose. Alors le gouvernement dit oui, mais vous comprenez, on va pas. Il faut faire attention. Il y a des gens qui servent de leur voiture pour travailler, soit pour aller travailler, soit pour travailler. Mais il n'est pas question d'alléger la facture pour ceux qui remplissent leur camping-car ou leur voiture pour partir en week-end. Ouais, bon, d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est que ça ne nous explique pas comment les gens qui sont à l'euro près pour leur budget font pour continuer à aller travailler. En plus, ils ont en général des voitures qui sont assez anciennes et donc qui, certes, polluent, mais qui consomment beaucoup. Plus une bagnole est vieille, plus elle consomme. Voilà. Et donc, le tas de ferraille en question, il faut qu'il continue à permettre à son propriétaire d'aller travailler, parce que sinon, bah, c'est tout qui s'effondre. Et ça, c'est la question que se posent un tas de gens. C'est-à-dire que les budgets, ils sont pas, les budgets mensuels des Français, ils sont pas élastiques. Donc, je pense que cette question va devenir rapidement cruciale pour le gouvernement.
Alors, a priori, je ne sais pas si tu as vu, les Iraniens ont annoncé qu'ils vont laisser passer certaines compagnies commerce et pétrolières, notamment des Chinois apparemment. Est-ce que tu penses que la situation pourrait se débloquer? Parce que Trump a dit qu'il allait laisser tranquille une semaine. Est-ce que ça veut dire que ça va s'arrêter? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Moi, j'en pense que ceux qui ont la clé du détroit d'Ormuz s'appellent les assureurs. Et si les assureurs disent, monsieur, les Iraniens nous disent que vous pouvez passer, mais nous, votre cargo ou votre pétrolier, nous ne l'assurons pas parce qu'il y a des risques énormes et on n'a pas envie de se mettre à rembourser des navires de commerce. À tire-larigot, donc on n'assure pas, donc les bateaux ne prendront pas le risque de franchir le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, ce sont les assureurs qui bloquent, d'un certain point de vue, le trafic. C'est-à-dire que la menace des Iraniens, je dis bien la menace, ils n'ont même pas mis de mine, hein, il n'y a pas de mine dans le détroit d'Ormuz, il n'y a pas de bateau qui empêche le passage. Le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, il se franchit sans aucun problème. Sauf qu'on n'est jamais sûr qu'il n'y ait pas tout à coup une petite embarcation ultra rapide avec un abruti et un lance-roquettes qui tire sur un cargo et qui mette le feu. Si c'est un super tanker, le cargo, il va au fond de l'eau. Hein. Le pétrolier il va au fond de l'eau. Donc on n'est pas capable de le stopper. On n'est pas capable d'arrêter un drone, simplement un drone, avec un obus bricolé avec du scotch qui laisse tomber l'obus sur l'embarcation. Hein, c'est aussi bête que ça. Personne n'est en mesure de dire que des Iraniens, pas le pouvoir iranien, mais des Iraniens peuvent tout à coup décider de couler un navire qui passerait le passage. Alors, les Chinois, ça c'est autre chose, les Chinois. Le rapport que les Chinois entretiennent avec l'Iran est un rapport extrêmement stratégique, puisque l'essentiel de leur approvisionnement en pétrole vient de l'Iran, et ils ont besoin que l'Iran continue à les approvisionner en carburant. Pourquoi? Ben, chers amis, il y a toujours la menace quand même d'une guerre entre les États-Unis et la Chine autour de la question de Taïwan, mais pas que Taïwan d'ailleurs, mais il y a toujours cette menace-là. La vraie guerre que prépare aujourd'hui Donald Trump, c'est avec des Chinois. Voilà. Et le problème, c'est que là, il s'est un petit peu lié les mains dans une guerre dont il ne sait pas comment sortir, et avec une menace énergétique pour l'ensemble de la planète. Donc, je pense que la crise, on va l'appeler pudiquement comme ça, ou en tout cas les conséquences de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, ne sont pas prêtes de se dissiper et que le gouvernement va être obligé de prendre des mesures d'urgence pour soulager le pouvoir d'achat des Français.
Alors, j'ai vu aussi que les ventes de voitures électriques sont en train d'exploser, apparemment. Mais bon, quand on voit le prix excessif des voitures électriques, c'est que pour les ménages les plus aisés, quoi. Pour les gens, effectivement, qui sont payés au SMIC et qui doivent faire 20 km aller, 20 km retour, c'est un enfer.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, enfin, faut bien voir quelque chose, c'est que notre équipement nucléaire nous garantit que, quelles que soient les secousses au niveau mondial, les Français auront toujours de l'électricité. Moi, je ne sous-estime pas le problème des déchets nucléaires, qui est un problème central, qu'on oublie pudiquement. Mais dans l'immédiat, c'est vrai que le parc nucléaire permet. Y compris les équipements éoliennes, panneaux solaires, etc., permet d'assurer l'autonomie énergétique du pays. Voilà.
Il y a
Bon.
quel pays en Europe là qui sera en difficulté par rapport à l'approvisionnement en pétrole?
Ben, ceux qui sont les moins équipés en nucléaire sont les plus vulnérables. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que l'Allemagne est menacée? J'ai pas les chiffres en tête. Ils sont sur
Ben,
du gaz, du charbon?
L'Allemagne, elle a le charbon. Elle a le charbon encore, hélas, mais elle a encore le charbon. Mais le problème, c'est que il faut envisager des solutions durables. Donc les gens se précipitent sur les voitures électriques parce qu'ils disent, un, de toute manière, c'est l'avenir. Deuxièmement, avec ça, on sera tranquille. Et troisièmement, on se dit, ben, finalement, pourquoi acheter une technologie obsolète ou qui est destinée à devenir obsolète plutôt qu'une technologie en devenir? Voilà, il vaut mieux acheter une bagnole électrique, même si il y a quand même des inconvénients sur l'électrique.
Alors je viens de regarder sur l'Allemagne, le mix énergétique de l'Allemagne, le pétrole, ce serait que 1% en fait. Donc ils ne sont pas vraiment menacés, effectivement, il y a du charbon et des énergies renouvelables.
Oui, mais le pétrole, il ne faut pas oublier aussi que nous avons nos amis russes qui nous alimentent en pétrole.
Mais ça y est, il n'y a plus de sanctions, Serge, c'est fini, il n'y a plus de guerre.
Donc c'est un peu le souci dans cette affaire, c'est que bon, on prend des sanctions contre la Russie, c'est bien, mais il faut faire attention, quoi. Il faut arriver à. C'est difficile de gérer deux conflits régionaux en même temps. Voilà, on a un conflit européen entre l'Europe et la Russie, et en même temps, nous sommes dépendants quand même d'un deuxième conflit dans lequel nous ne sommes pas partis, qui est entre Israël et les États-Unis et l'Iran, qui aujourd'hui, effectivement, complique la situation internationale. Une autre question?
Compliqué, oui, je regarde, je regarde, je regarde. Alors, on demande ton avis sur Juan Branco sur le chat. Est-ce que tu te souviens de qui c'est déjà?
Qui est ce monsieur? C'est qui
Bon,
ce
c'est un
monsieur?
agitateur des réseaux sociaux, quoi.
Ouais, enfin, franchement, il ne m'intéresse pas, quoi. Voilà, je suis désolé, c'est brutal, hein, comme formule, mais je pense que l'individu est tellement instable que ça ne mérite pas qu'on s'attarde dessus.
Donc Muriel qui demande est-ce que les Russes vont nous approvisionner? Alors est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on lâche l'Ukraine, littéralement, en fait.
Non, non, non. Je pense que ce serait, stratégiquement, ce serait une folie de lâcher l'Ukraine. Ce serait une
Parce que si
folie.
on accepte le pétrole, Serge, ça veut dire qu'on lâche l'Ukraine. Non?
Bah, c'est-à-dire que c'est un moyen de pression supplémentaire. Aujourd'hui, le conflit avec l'Iran permet à la Russie d'exercer une pression supplémentaire sur les économies européennes. Voilà. Mais ces économies européennes sont aussi en mesure de résister. Voilà. Simplement, il faut peut-être aussi se poser la question d'arriver à avoir une Europe un petit peu plus unie, un peu plus efficace, un peu plus démocratique. Voilà, aujourd'hui, l'idée européenne, c'est une très belle idée, sauf qu'elle est complètement, ça ne fonctionne pas. On a Madame von der Leyen, je pense qu'il faudrait s'en séparer, il faudrait lui dire au revoir rapidement, ça s'impose. Parce qu'elle confond son poste avec celui de. Ça se prend pour une espèce de chef de l'État de l'Europe. Elle n'est pas chef de l'État, voilà. Et je pense qu'il faudrait renforcer les pouvoirs du Parlement européen, voilà.
Mais Serge,
Mais tout ça, c'est un combat, hein.
tu penses qu'on peut supporter à moyen long terme un litre d'essence à 3 euros?
Non, 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 non. Quel budget peut le supporter? Quel budget peut le supporter?
Bah oui.
Quel budget? Et pardon, mais il y a, je parlais tout à l'heure de ces zones blanches, des gens qui vivent à 70, 80 km de Paris, qui tous les jours perdent 3 heures sur l'autoroute pour aller bosser, ou traversent, vivent en banlieue est et vont travailler à l'ouest ou inversement. Si en plus le peu qu'ils gagnent, c'est pour le mettre dans le réservoir, il y a un moment donné, c'est plus tenable. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est, alors pour le coup, et sans jeu de mots aucun, c'est quelque chose qui est explosif. Le prix du carburant, souvenons-nous quand même des gilets jaunes, hein.
Et c'était un gilet jaune, c'était quoi? C'était le gasoil à 1,50 € je crois,
Ben
non, à
oui, au départ,
l'époque.
c'est le prix du gasoil, hein. Je vous rappelle que
Mais c'était 1,50 € je crois.
c'est bêtement sur le prix du gasoil. Voilà. La semaine suivante, on en était à demander à ce que le gouvernement intervienne et la troisième manifestation, on en était à demander la démission d'Emmanuel Macron. Donc voilà, je pense que le gouvernement aurait intérêt à se prendre cette question au sérieux. Je ne doute pas d'ailleurs qu'il le prenne au sérieux. Simplement, la question qui s'impose, c'est soit on diminue les taxes, soit on bloque les prix. Il n'y a pas d'autre solution. Les vœux pieux en direction, des raffineurs, ça ne marche pas.
Philippe Husson qui nous dit le fait d'être dans l'Union européenne nous protège-t-il? Ben, quand même, Serge.
Est-ce que ça nous protège de quoi? De la crise
Ben oui.
énergétique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que ça nous protège, si nous étions isolés face à cette crise énergétique, il est clair que ça pose un problème. Là, il peut y avoir une riposte commune. Bon, il faut se mettre d'accord, bien sûr. Mais c'est la tâche, après tout, et des parlementaires européens, de la Commission européenne, des chefs d'État, mais il faut envisager effectivement une riposte globale. Je ne vois pas d'autre solution, hein.
Question de Michel, pourquoi l'Espagne arrive à baisser les prix de l'essence et pas nous? C'est vrai que l'Espagne a baissé de 25 centimes, je crois.
Bah écoutez, c'est une bonne question et j'avoue que j'ai pas du tout la réponse, donc je ne vais pas m'aventurer dans une réponse. J'ai pas regardé ça. Donc,
Attends,
je sais pas.
je crois que c'était 25 centimes, Espagne, essence. Ils ont divisé par deux. Ouais, donc du coup, mais il y a un frontalier, j'ai vu là sur le chat, qui va faire son plein en Espagne. Jusqu'à 30 centimes de moins sur l'essence, ouais, en Espagne.
Écoute, je ne
J'imagine
sais pas. Ce
que c'est
que je
sur les
sais, c'est
taxes.
que de toute éternité, si j'ose dire, le prix de l'essence en Espagne a toujours été inférieur au prix français. Je le sais parce que moi, je vais souvent, pendant mes vacances en Espagne, en moto. J'adore faire des road trips en moto avec des copains en Espagne. Et chaque fois qu'on y va, c'est que du bonheur, parce que quand même, ça coûte bien moins cher qu'en France. Voilà.
Alors, c'est les taxes qu'ils ont baissées, je viens de regarder, notamment la TVA en Espagne. Mais d'ailleurs, concernant la TVA et les taxes sur l'essence, est-ce que tu penses qu'à ce niveau-là, si on maintient, imaginons, une essence à 2,50 € 3 € le litre, est-ce que tu penses qu'on peut faire baisser le déficit? Est-ce qu'on peut réduire le déficit? Est-ce que c'est colossal, les recettes
Non,
de la TVA?
c'est pas comme ça que se pose le problème. Le problème du gouvernement, c'est de dire, bon, très bien, on peut baisser les taxes sur le carburant, la proportion des taxes, c'est important, hein, très important. Bon,
Ah oui.
mais si on baisse les taxes, ça veut dire que le budget qui a été voté va en prendre un grand coup dans la gueule. Donc il faudra d'abord envisager peut-être un budget rectificatif, ce qu'on appelle un collectif budgétaire, mais ça veut dire des recettes fiscales en moins. C'est ça le problème. Le gouvernement a peur que ces efforts d'économie soient contrebalancés par des recettes fiscales en moins. Et ça, pour l'instant, le gouvernement ne s'y résout pas. C'est aussi simple que ça, hein.
On a Nathalie là sur le chat qui lui dit, enfin, elle pense que Macron vise le poste d'Ursula von der Leyen. C'est une question. Est-ce que tu penses qu'une fois l'année prochaine, Macron, normalement, c'est bye bye, hein, ça c'est officiel. Est-ce que tu penses que, il a des ambitions à la tête de l'Union européenne?
Bah, vous savez, c'est la blague qu'on fait régulièrement, c'est dire Macron, quel piètre président et quel formidable ministre des Relations extérieures, des Affaires étrangères ferait-il? Bon, pourquoi? Parce que ça l'intéresse beaucoup plus d'ailleurs que le sort misérable des Français, il s'en fout un peu, alors qu'il adore ça. Attends, il y a quelqu'un qui dit, alors c'est toi, c'est Serge que j'entends passer devant chez moi tous les week-ends et qui me réveille en moto. Emmanuel Macron, c'est vrai, est à l'aise à l'international. Maintenant, à une époque, la blague, c'était aussi de le voir secrétaire général de l'ONU. Voilà. À la place de von der Leyen, pourquoi pas, mais j'en sais rien. L'avantage, c'est qu'il parle un très bon anglais, donc au moins c'est déjà ça. On imagine mal Jacques Chirac à la
Ou
tête de
François Hollande.
ou François Hollande, mais moi j'en sais rien ce qu'il veut faire. Je pense, je sais pas, je sais pas. Enfin, j'ai aucune information particulière hein, à ce sujet. Voilà.
Bah, je pense qu'on a fait le tour. Si tu vois d'autres questions sur le chat,
Mais je sais pas là, je regarde.
ça parle de duel à l'épée entre Rachida Dati et Gabriel Attal.
Eh oui, oui, avec Gaston Defferre. Mais pourquoi entre Gabriel Attal et
Oui.
Rachida Dati, je
Pourquoi
vois
les
pas
deux?
pourquoi. Je sais pas, je vois pas le rapport. Ils sont pas.
On a Julien toujours sur le chat. Quels vont être les débats à l'Assemblée dans les prochains mois? Est-ce qu'on a des projets de loi là, des gros trucs qui arrivent?
On a rien de très structurant. On n'a rien de très structurant. Bon, il faudrait peut-être terminer l'autre partie du projet de loi fin de vie, mais je n'ai pas l'impression que ça va venir. C'est un peu, moi j'ai regardé l'ordre du jour, là, ces jours-ci. On a surtout pas mal de textes qui sont passés en commission mixte paritaire et qui vont être avalisés, mais il n'y a rien de très fort, hein. On rentre, pour être très franc, on rentre dans une année législative assez molle parce qu'elle va être polarisée par la campagne et que l'ensemble des groupes ne veulent pas se lancer dans des batailles homériques à l'Assemblée nationale, alors même qu'ils ont besoin de canaliser leurs forces sur l'élection présidentielle. On peut pas bastonner à l'Assemblée nationale tous les jours. Et en même temps, préparer une campagne présidentielle. Ça c'est vraiment compliqué. Donc, il y a. Puis en plus, je pense que tout le monde est crevé, quoi. Franchement, tout le monde sort éreinté de ces campagnes, de ces municipales. C'est une des campagnes les plus brutales à laquelle, j'ai assisté personnellement. Les municipales, s'il y a un scrutin fédérateur, apaisé, j'allais dire citoyen, c'était jusqu'à présent les municipales. Pourquoi? Parce que le maire, c'est un élu de proximité. C'est l'occasion dans. On peut mesurer son action. Hein, quand on habite dans une petite commune, 10, 15 000 habitants, Les réalisations du maire, elles se voient tout de suite. Est-ce qu'on a refait l'école? Est-ce qu'il y a des nouveaux commerces? Est-ce qu'il y a des transports? Est-ce qu'il y a plus de trains à la gare? Est-ce qu'il y a des emplois qui se sont créés? Tout ça est quantifiable, observable. Et puis le maire, on le croise dans la rue, on peut lui dire, bah, merde, tu fais pas du bon boulot, ou on peut le féliciter. Donc il y a un côté vraiment très citoyen. Et les gens, en général, se mobilisent. C'est l'élection. Pour laquelle, jusqu'à pas 2020, mais avant, on se mobilisait quand même fortement pour les municipales, parce qu'on avait le sentiment que le maire, personnage respecté, en plus très souvent issu de la société civile, c'est pas un professionnel de la politique, hein. D'ailleurs, je profite, je fais une parenthèse, mais ce qui a aussi flingué les municipales, là, c'était la fin du panachage dans les petites communes. Ce qu'on faisait, c'est que souvent il y avait plusieurs listes, et puis on pouvait faire son petit marché. On disait, bon, alors la liste qui est dirigée par Robert, c'est très bien, mais la liste d'Émilie, il y a un mec qui est bien, alors je raye un nom, et puis j'en rajoute un autre sur la liste. Et donc, quand on dépouillait, finalement, on avait des candidats, bien qu'étant sur des listes différentes, mais on arrivait à composer une liste municipale à partir des scores de chaque individu. Ça ne fonctionnait que dans les petites communes, mais c'était essentiel. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on est obligé d'arriver avec des listes. Alors, ça pose un vrai problème, mais le vrai problème, ça a été la parité. Pour constituer une liste paritaire, on y arrive. Deux listes paritaires, ça devient très compliqué dans les toutes petites communes. Ça c'est ce qui explique aussi une certaine désaffection, et ce qui explique pour une part, une petite part, l'abstention. Voilà. Donc, souci.
Alors, j'ai oublié son nom. Ah oui, Philippe sur le chat. Est-ce que tu as un mot de réconfort pour François Bayrou?
Ah, le pauvre homme.
Et il dort plus là, hein. Ça fait depuis dimanche soir, terminé, hein.
Je crois que c'est la fin d'une carrière politique. Voilà, je pense que il a obtenu son bâton de maréchal en devenant Premier ministre. Il n'a pas été à la hauteur. L'affaire Betarame a achevé de le plomber. Ses mensonges successifs, ses dénis successifs ont profondément choqué. Voilà. Sur place, nous, on est bien informés. Hein. Antoine Echetto, que vous connaissez tous, qui réalise des petits reportages pour la chaîne, son papa habite non loin de Pau. Et donc, c'est pour nous notre thermomètre de la région. Et effectivement, l'époque Bayrou est terminée, quoi. Voilà. Enfin, on referme le livre. Voilà. Mais je crois qu'il est responsable, hein, de sa chute. Y compris sa manière de se comporter dans le conseil municipal, de refuser à l'opposition de parler de Betarame, etc. Ça a beaucoup marqué les gens. Ça a beaucoup marqué les gens. Et cette obstination à couvrir Betarame a pesé énormément dans le débat local. Ça, c'est. Voilà.
Alors,
Puisqu'on arrive à la fin, j'aimerais bien vous dire un petit mot quand même par rapport à des commentaires que je vois fleurir sur les sujets. Je voudrais vous dire un petit mot sur ce qu'est pure politique et quelle est la démarche qu'on soit bien clair tous. Des gens me disent, mais Serge, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous tapez sur la France insoumise? Beaucoup me reprochent de maltraiter la France insoumise. Alors d'abord, je voudrais dire que la France insoumise, elle est traitée comme tout le monde. Voilà. Il n'y a pas d'indulgence particulière, mais il n'y a pas d'acharnement particulier non plus. Elle est traitée comme je traite le Parti socialiste et les gens qui sont de bonne foi, regardant que je ne ménage pas mes critiques et mes coups de griffe sur les uns et sur les autres. Et disons qu'à pure politique, tout le monde est assuré d'être maltraité à égalité. Voilà, ça c'est un premier point. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je pense que c'est mon job de journaliste. Je ne suis pas là pour décerner des bons points, dire bah ceux-là ils sont mieux que les autres, etc. Ça, je pense que c'est les citoyens qui décident eux-mêmes. Moi, j'ai pas à leur dire bah, lui il est mieux que l'autre ou finalement leur projet politique c'est mieux, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quelque part, je ne suis pas un youtubeur. Je m'explique. Un youtubeur, il a le souci de plaire à son audience et de gonfler son audience. Maxime et moi, on sait très bien ce qu'il faudrait faire pour avoir des audiences formidables, écraser tout le monde. On sait très bien la soupe qu'il faudrait servir pour se concilier un tas de gens. Voilà. Hein, on sait fabriquer ça. Sauf qu'on ne veut pas faire ça. On prend le risque de déplaire. Voilà. Parce qu'on s'adresse à la raison, on s'adresse à la liberté des gens et on respecte leur liberté d'opinion. C'est-à-dire que moi, je veux que des gens viennent ici, voient des analyses, les partagent ou pas, peuvent trouver que celle-là, elle est bonne, ils sont assez d'accord, et puis celle-là, ils ne sont pas d'accord, et c'est normal, et c'est bien. C'est bien, moi, je ne cherche pas à fédérer un mouvement. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un youtubeur. Je ne cherche pas à ce que les gens soient d'accord avec moi. Absolument pas. Voilà, c'est exactement le contraire de ce que fait un youtubeur. Un youtubeur, il a envie de fédérer autour de lui, d'être important, de faire de la pub. Nous, on prend le risque permanent de déplaire. Alors certains nous disent, mais vous n'êtes pas neutre. Mais non, on n'est pas neutre. Bien sûr qu'on n'est pas neutre. Hein. Peut-être les horaires des chemins de fer, ça c'est neutre. Voilà. Mais nous, on a un regard, on a un prisme, bien sûr. Chaque journaliste a un prisme sur la société. Il regarde la société à travers sa propre histoire, ses convictions. L'essentiel, c'est qu'il respecte, je dirais, les principes élémentaires de la déontologie journalistique qui sont dans la charte de Munich. Et je pense que je les respecte, voilà. Mais j'ai un prisme. Oui, j'ai un prisme, bien sûr, sinon vous ne viendriez pas, hein. Franchement, si je faisais un truc neutre en disant, alors, eh bien, Emmanuel Macron a dit que, deux points ouvrez les guillemets, et puis Jean-Luc Mélenchon a dit que, ou deux points ouvrez les guillemets, et Olivier Faure a dit que, deux points ouvrez les guillemets, vous seriez tous partis en courant, hein, vous auriez raison, et moi le premier. Donc, bien sûr, il y a un angle, hein, il y a des faits, et puis il y a un angle. Alors, il y a des gens qui me disent, mais ouais, mais vous comprenez, il y a encore 2 ans, vous tapiez sur Macron, et maintenant vous tapez moins sur Macron. Mais je tape moins sur Macron, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Macron n'est plus dans la situation hégémonique dans laquelle il était. Aujourd'hui, il y a d'autres forces qui sont omniprésentes sur le devant de la scène. Donc nous sommes dans une situation politique qui a changé. Pendant longtemps, il n'y avait que un pouvoir qui avait été reconduit. Emmanuel Macron, il est réélu, hein. Je vous rappelle qu'il a fait 2 quinquennats. Donc, pendant au moins le premier quinquennat et jusqu'en 2024, Emmanuel Macron est prédominant dans l'opinion, dans le pouvoir, dans les institutions. Donc, c'est lui qui exerce ce magistère politique qui fait que l'ensemble des critiques se focalisent sur Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est totalement atomisé politiquement. Donc bien sûr, bah, on critique la France insoumise, on critique les écologistes, on critique le Parti socialiste, on critique Luxemburg, on critique le MoDem, on critique tout le monde, on critique l'extrême droite, voilà. Et si on est de bonne foi et qu'on regarde nos sommaires, tout le monde prend un bon coup de bambou derrière la tête à chaque fois, voilà. En tout cas, on s'efforce de faire ça. Mon problème, moi, mon métier, c'est pas de parler des trains qui arrivent à l'heure. Mon problème, mon métier, c'est de parler des trains qui sont en retard. Voilà. Donc je suis là pour faire ça. Alors il y en a qui le prennent mal, qui disent, ah ouais, bah non, mais quand même, vous pourriez dire que la France insoumise, c'est mieux qu'eux. Mais il y a des socialistes qui me disent, bah, attendez, quand même, hein, vous avez les fous furieux de la France insoumise, nous, on est des gens raisonnables, vous pourriez quand même nous filer un petit coup de pouce. Et les gens du MoDem qui disent, on aime bien ce que vous faites, mais quand même, hein, vous êtes un peu à gauche, hein, bon, c'est un peu emmerdant. Il y a des gens du Rassemblement national qui me disent ouais, c'est bien sympa, vous nous filez la parole dans chacune de vos émissions, mais enfin, qu'est-ce qu'on prend sur la tête? Bon, voilà, personne n'est content. Hein. Tous les politiques que je connais, il n'y en a aucun qui est content. Hein, j'en connais pas mal, et pour cause, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit Serge, ah, c'est formidable ce que vous faites, franchement, merci. Non, ils sont tous en train de dire ouais, bon, putain, vous pourriez arrêter de nous chercher des poux dans la tête. Voilà, bon, eh bien, je vais continuer. Voilà. Je vais continuer, je ne cherche pas à plaire, Et puis si un jour les gens disent que bah, ça, cette chaîne ne plaît plus, on l'arrêtera, hein, voilà. Mais enfin, pour l'instant, je pense qu'il y a plus de gens qui aiment qu'on aille chercher des poux dans la tête de tout le monde que ceux qui le regrettent. Voilà, c'est ce qui fait l'essentiel, c'est de rester, comment dire, dans le contradictoire. Moi, j'essaye en permanence, c'est pas toujours facile, hein, mais j'essaye en permanence de faire valoir l'ensemble des points de vue et de montrer comment ils s'articulent. C'est ça l'effort que nous faisons à Pure Politique. Mais comprenez bien que Pure Politique, on n'est pas l'antichambre d'un mouvement, quel qu'il soit, hein. Alors, il y en a beaucoup qui m'ajouteraient, ah, socialiste. Bon, ben non, les gars, bon, revenez sur Terre, franchement, regardez un peu mon histoire. Il y en a qui me bâtissent un roman psychologique sur le fait que donc j'ai été aux médias, blablabla, et que j'aurais des comptes à régler. Je rappelle quand même à ceux qui soutiennent cette approche psychologique que quand je suis arrivé aux médias, j'avais, je crois, déjà 32 ans de carte de presse. J'ai fait quelques menues choses avant d'arriver dans ce titre, et j'ai fait aussi quelques menues choses avant d'arriver dans le titre suivant. D'accord? Donc, si vous voulez juger le bonhomme et mettre un regard sur ce que je fais, regardez ce que j'ai fait dans ma carrière journalistique. Moi, j'en suis plutôt content de ce que j'ai fait. Je pense qu'elle parle, cette carrière. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de régler mes comptes avec Pierre-Paul ou Jacques. Je ne suis pas en train d'être le sous-marin de je ne sais qui ou je ne sais quoi. C'est totalement ridicule. J'essaie de faire mon métier. Que vous me disiez, écoute Serge, là, je pense que tu as sous-estimé ce point-là. Il y en a qui sont très bien. Il y a des tas de commentaires qui sont très intéressants, constructifs, qui me disent, ouais, ben c'est bien, mais là, je pense que tu t'es planté parce que tu n'as pas vu ça, parce que dans les petites villes, il se passe ça, parce que économiquement, il se passe ça, parce que cet angle-là, c'est pas le bon. Ça, c'est une vraie discussion et c'est ce qui m'intéresse de provoquer chez vous. C'est pas d'être d'accord. Je fonde pas une secte, je suis pas Ron Hubbard, hein. Je cherche surtout à avoir des gens qui réfléchissent et d'aider à cette réflexion collective parce que je pense que dans ce pays, on a besoin tous de réfléchir avant d'agir. Voilà. C'était le petit mot de la fin. Maxime.
Merci Serge. Et puis demain, c'est le retour du Bourbon, Serge, parce que ça nous manque un peu là, les belles images.
Eh oui, demain on a le Bourbon, voilà. Non, j'étais bien content de retrouver tout le monde. D'abord, il y a les collègues, ça fait plaisir, les confrères, et puis les responsables politiques, voilà, qui étaient tous en verve. Donc, nous ont tous fait de savants commentaires sur les municipales. Donc, on va vous en passez la quintessence, vous en livrez la quintessence, et puis on va parler bien sûr du prix des carburants, qui est l'autre souci, qui est un souci immédiat des Français. Voilà.
Bah, merci à toutes et à tous. Merci Serge, vous étiez toujours aussi nombreux. Merci pour toutes vos questions et votre soutien. Je ne sais pas si tu as vu quand tu faisais ta petite conclusion. Beaucoup, beaucoup de soutien sur le chat. Bah, ça nous fait vraiment très plaisir. Merci à toutes et à tous. Salut Serge et bonne soirée. À
Merci
demain.
à vous, bonne soirée à tous. Et à bientôt,
Salut.
à demain.